Il est monté avec une vitesse extraordinaire, j'estime à plus de 2000 à l'heure.
Une boule de lumière suivie d'une longue traînée a été aperçue le soir du réveillon.
Et là, un engin est apparu, quelque chose comme une cloche un petit peu faite d'un métal argenté très brillant.
La vérité est ailleurs, disait la célèbre série télévisée X-Files, qui n'est certainement pas tout à fait pour rien dans l'idée répandue selon laquelle les ovnis sont d'origine extraterrestre et qu'ils sont parmi nous. La vérité est ici, répondraient au contraire tous les scientifiques qui travaillent sur ces objets volants non identifiés, rebaptisés aujourd'hui en PAN pour phénomène aérospatial non identifié, parce qu'en guise de bureau fictif d'un Mulder ou d'une Scully, il y a en France, depuis 1977, un bureau tout à fait réel, lui le GEPAN, pour groupe d'études de phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui étudie les cas qui lui sont transmis, qui dépend du CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Bonjour Jean-Paul Agut.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du GEPAN. Alors pour commencer, est-ce que les ovnis sont une réalité?
Notre travail au GEPAN, c'est de répondre à l'étrangeté, à l'extraordinaire rencontré par tout un chacun dans le ciel. Cet extraordinaire s'explique, pratiquement dans tous les cas. Dans certains cas, il ne s'explique pas. Voilà. Mais pour autant, par rapport à la question d'extraterrestre, c'est peut-être quelque chose qui se loge dans le non-expliqué, mais on n'a pas d'éléments, nous, je pense.
Alors justement, de quoi parle-t-on aujourd'hui quand on parle de PAN pour phénomène aérospatial non identifié?
On répond à l'extraordinaire vécu par tout un chacun, qui peut s'exprimer n'importe quand, et qui peut prendre différents aspects. C'est donc suffisamment étrange pour que le témoin veuille bien en parler. Il nous confie, c'est extraordinaire. C'est pas facile de parler l'extraordinaire. Il ne peut pas en parler à tout le monde. Donc le GEPAN est un organisme officiel qui traite la question de manière sérieuse et aussi de manière en respectant l'anonymat. Alors, l'étranger, ça peut être quoi? Ça peut être un objet étrange par lui-même, en ce sens que le témoin ne l'a jamais vu. Dans la très grande majorité des cas, ce qui est étrange et que l'on explique au bout du compte, au départ, était une chose tout à fait simple. Un avion, un astre, probablement l'astre, la lune, il y avait des nuages devant la lune avec des trouées dans ces nuages qui dessinaient des arabesques. L'étrangeté peut être induite aussi par des interprétations, par des erreurs de perception, par des mécanismes mentaux propres à l'humain. Nous avons à peu près 600 contacts par an. La moitié de ces contacts se traitent très très vite au téléphone ou par retour de mail. Et le 200 à 300 nécessite ce qu'on appelle une enquête, une analyse, qui peut être plus ou moins longue, et qui peut, dans certains cas, amener à aller rencontrer le témoin chez lui, et reconstituer ce qu'on appelle son observation, faire une reconstitution de l'observation, un peu comme une mécanique policière, si vous voulez, des fois.
Est-ce qu'il y a une classification, justement, de la part du GEPAN dans les témoignages que vous recevez? Est-ce qu'on a l'image d'un témoin qui est plutôt en zone rurale, qui est plutôt une personne isolée, ou plutôt une personne d'une certaine catégorie socio-professionnelle? Est-ce que vous considérez tous les témoignages exactement sur le même plan?
Le témoin peut être de toute origine socio-professionnelle. Ça peut être l'homme des champs, comme ça peut être le pilote d'avion. Les témoignages se font quand même plus en zone rurale. Disons qu'en ville, il y en a un peu moins.
Aujourd'hui, du coup, avec la multiplication des téléphones portables, des moyens de capturer des images, on aurait tendance à penser qu'il y a plutôt plus de témoignages aujourd'hui qu'il n'y en avait hier ou avant-hier.
C'est vrai que nous avons eu beaucoup de témoignages à un moment donné qu'on appellerait aujourd'hui des fausses étrangetés, en ce sens que ce sont des photos qui sont étranges. Au retour de vacances, en dépilant les photos, on trouve des choses étranges. Et nous avons appris à les comprendre, ces étrangetés, qui sont en général créées par l'appareil photo lui-même. L'appareil photo moderne, n'importe quoi qui passe devant l'objectif peut apparaître comme un pigeon ou comme un vaisseau. Nous prenons de moins en moins les témoignages d'étrangetés qui ne sont perçus que par les photos. Si les photos accompagnent la vision, alors là, ce sont des outils remarquables.
Est-ce qu'il y a également une sorte de gradation dans la qualité de la valeur d'un témoignage entre une personne qui témoigne seule d'une perception au milieu de la nuit et, je sais pas, un groupe de personnes à différents endroits? Enfin, tout ça, ça se classifie?
Alors, ça se classifie, c'est une de deux échelles d'analyse. Cela s'appelle la consistance, c'est-à-dire c'est à la fois le degré d'information, le nombre de cases qui sont cochées, si vous voulez, le témoin qui est capable de donner l'élévation de son pan, l'azimut, la couleur, la forme, ainsi de suite, vous imaginez. Est-ce qu'il est capable de donner une photo, en plus? Et puis, également de la fiabilité. L'autre point important, cette information-là doit être fiable. La fiabilité, c'est un peu plus délicat, mais néanmoins, le témoin qui se contredit, qui change d'avis, c'est des éléments de manque de fiabilité. Donc, tout cela fait ce qu'on appelle la consistance, et nous avons effectivement des témoignages qui sont plus ou moins consistants. Par contre, le degré de consistance est à mettre en rapport avec le degré d'étrangeté. Si quelque chose apparaît extrêmement étrange, nous avons besoin, pour consolider ce caractère étrange, d'avoir beaucoup de consistance. Nous traitons depuis 40 ans des témoignages, donc nous avons un flux courant, disons, de témoignages, et puis nous avons des témoignages anciens qui, à un certain moment, ont été classés inexpliqués, qui étaient suffisamment étranges pour ne pas trouver d'explication, et suffisamment consistants pour qu'on puisse les classer inexpliqués. Et ce sont quelque part des défis à la connaissance, et c'est normal qu'on s'intéresse à ces cas-là, en même temps, maintenant et toujours. Et donc, rétrospectivement, nous regardons ces anciens cas pour essayer de mieux les comprendre. Et effectivement, ces cas anciens ont pu être expliqués, peuvent être expliqués plus tard, à la lumière des progrès de la connaissance. Voilà. Mais il y a aussi tout simplement la progression de l'expérience. Pour l'illustrer, les lasers, les tirs de laser des discothèques dans les nuages, ça fait des manifestations très variées, mais nous avons appris à les cataloguer.
Quel est le taux de résolution aujourd'hui des cas que l'on vous adresse, Jean-Paul Agut?
Un ou deux cas inexpliqués, pas plus.
Par année?
Par année, oui. Nous avons 30% de cas qui sont inexploitables, parce qu'ils sont appréciés, évalués comme manquant de consistance.
Est-ce que vous pouvez nous donner l'exemple d'un cas qui a été particulièrement complexe ou retors?
C'est le cas de trois témoins dans une voiture qui témoignent, donc sont surpris par, c'est leur mot, hein, une soucoupe stationnaire. Ce cas-là, très vite, on découvre que l'endroit où, en question, il est passé un avion qui est un peu particulier, à savoir qu'il est très gros, et il passe à ce moment-là. Donc je trouve qu'il y a une conjonction, immédiate. Notre travail n'est pas de dire au témoin ce qui est à l'origine de l'observation, notre travail c'est d'expliquer au témoin comment il a pu voir la chose aussi étrange. Donc il faut aller plus loin. Faut que ce soit stationnaire, on est dans le cas d'un phénomène d'illusion d'optique, disons que le témoin est en déplacement, l'avion est en déplacement, donc la géométrie relative amène le témoin, dans la référence du témoin, à voir l'avion immobile. Et l'autre point, c'est pourquoi une soucoupe? On est sur un éclairage très particulier avec une lune rasante que les témoins ont oublié, ils ne la voient plus, une lune rasante le soir, bien sûr. Et cette lune éclaire l'avion dans une condition qui est telle que la coque, elle réfléchit bien. Et les ailes, c'est comme des miroirs, où ça réfléchit totalement, où ça réfléchit jamais. C'est un cas qui aurait pu prendre pas mal de temps, on a eu pas mal de chance, mais il aurait pu aussi, mal tourner. À savoir que la même situation d'avion, j'aurais pu me trouver avec un avion un peu plus loin de son aérodrome, et volant plus bas et donc sans trace radar. Donc j'aurais pas pu vraiment être certain qu'il y avait un avion, j'aurais pu simplement me faire une hypothèse. Puis j'aurais pu avoir, un autre point important, dans la voiture, pas trois témoins mais un seul, le conducteur. Lequel conducteur d'ailleurs a témoigné qu'il avait arrêté la voiture. Parce que l'émotion est très présente dans ces affaires-là. Et le conducteur, lui, croit qu'il a arrêté la voiture. Et si j'avais eu que le conducteur, toujours là, je me trouvais avec quelque chose dont je ne pouvais pas être certain que c'était un avion, et je me trouvais avec un phénomène de stationnaire, et je n'avais pas l'explication de mobilité du témoin, parce que lui m'assurait qu'il avait arrêté le véhicule, et je versais dans quelque chose que je n'arrivais pas à expliquer. Le GEPAN dépend du CNES, mais depuis 40 ans, travaille en convention avec des institutions qui sont quelque part partie prenante dans la question, soit parce qu'elles amènent des moyens, des ressources, soit parce qu'elles sont intéressées par l'ensemble de la question et des phénomènes. Donc en particulier, nous sommes en convention avec la Défense. La gendarmerie collecte les témoignages des témoins sur place en gendarmerie.
L'hypothèse extraterrestre est toujours plausible quelque part?
Nous n'avons strictement aucune preuve de près ou de loin de quelque chose qui serait de type extraterrestre. Ce qu'on peut dire, c'est que l'absence de preuve ne peut pas être une preuve d'absence.
Merci beaucoup Jean-Paul Agut. Je rappelle que vous êtes le directeur du GEPAN, le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.